conditions et limites des garanties se reporter au contrat.
Peugeot.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux ? Même pas d'apport ?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule. Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partner est à partir de 235€ hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dans un instant sur Europe 1, Alexandre Devecchio, l'invité du 20h10, nous vivions côte à côte. C'est le titre de son dernier livre. Ça sera juste après votre journal. Bonsoir Maël Essény.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 21h. Pierre de Villeneuve.
Au sommaire, le 49-3 sera engagé avec regret et amertume.
Sébastien Lecornu se rend à l'évidence et confirme aujourd'hui qu'il va passer en force pour faire adopter le budget de l'État. Le Premier ministre s'était pourtant engagé à renoncer à cette arme constitutionnelle lors de son arrivée à Matignon. LFI et le RN déposeront des motions de censure. Le gouvernement peut-il tomber ? Estimation dès le début de ce journal. Donald Trump veut contourner l'ONU alors qu'il bouscule ses alliés sur plusieurs dossiers comme le Groenland ou le Venezuela. Le président américain lance une nouvelle instance internationale, le Conseil de paix, tarif d'entrée fixé à 1 milliard de dollars. Dans ce journal également, nous serons dans l'Aude où le pic des crues est passé, alerte orange toujours en cours. Et puis la reprise des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public.
La tendance météo, Marlène Durel.
Alors l'épisode méditerranéen s'atténue, mais une nouvelle perturbation se rapproche et arrosera la Bretagne demain. Ailleurs, un temps plus calme, avec d'ailleurs pas mal de soleil en allant vers l'est. Et puis cette alerte orange en cours dans 5 départements pour les pluies et les crues, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, la Haute-Corse et la Corse du Sud.
A tout à l'heure pour la météo complète. Sébastien Lecornu fait volte-face et annonce l'utilisation du 49-3 pour faire passer le budget de l'État.
Le Premier ministre s'était pourtant engagé à renoncer à cette arme constitutionnelle lors de son arrivée à Matignon en octobre dernier. Promesse impossible à tenir en l'absence de majorité. Bonsoir Alexis de La Fontaine.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous.
LFI et le RN annoncent déjà le dépôt de 2 motions de censure en réponse à ce 49-3. Le gouvernement peut-il être renversé ?
Eh bien, selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 275 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions, comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti Socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains, car Sébastien Lecornu n'a pas respecter les lignes rouges présentées par Laurent Wauthier. Laurent Wauthier qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1 et malgré les concessions accordées au Parti Socialiste, la copie budgétaire confirmée aujourd'hui ramènera le déficit public à 5% du PIB, assure le Premier ministre. Emmanuel Macron salue un compromis qui permet de garantir la stabilité et au pays d'avancer. Les États-Unis ont un besoin vital de l'Europe. Déclaration aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot face aux menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump à l'encontre de 8 pays du vieux continent, dont la France. Mesure choc pour les forcer à accepter l'annexion du Groenland. Ce sujet sera au cœur d'un sommet européen extraordinaire jeudi soir. Ce soir, le Groenland et le Danemark proposent la création d'une mission de surveillance de l'OTAN dans le territoire arctique.
Dans ce contexte, la France n'entend pas siéger à ce stade au nouveau Conseil de paix promu par Donald Trump.
Une nouvelle instance pensée et dirigée par le président américain pour contourner les Nations Unies. Plusieurs pays annoncent aujourd'hui avoir reçu une invitation, la France donc, mais aussi la Russie, le Canada ou encore l'Argentine. Antoine Bienveau, on le sait, avec Donald Trump, tout est business, donc rejoindre ce projet ne sera pas gratuit.
Oui, 1 milliard de dollars en espèces, voilà le prix demandé par Donald Trump aux États qui souhaiteraient intégrer son Conseil de la paix. Un montant exorbitant, mais qui n'a rien de surprenant quand on connaît le président américain, selon le géopolitologue Frédéric Ancel.
Trump considère qu'il a déjà beaucoup trop payé pour la stabilité au Proche-Orient. Donc, il fait quelque chose, et notamment un plan de paix. Il faut que ça rapporte. C'est du Trump dans le texte. Hein. Le nord de sa boussole, ça a toujours été le mercantilisme absolu.
Objectif de ce Conseil de la paix, selon Donald Trump, garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits, notamment le Moyen-Orient. Il s'agirait donc en clair d'une sorte d'entité concurrente à l'ONU, avec cependant des règles bien différentes. Trump en serait le président autoproclamé, le seul à pouvoir inviter de nouveaux États à rejoindre le Conseil. Le président américain serait aussi doté d'un droit de veto systématique sur les votes, tout en ayant la main sur l'agenda des débats. Pour l'instant, une soixantaine de pays, dont la Russie, l'Argentine de Javier Milei ou encore l'Italie, ont confirmé avoir reçu une invitation. La France, elle, a décliné tout à l'heure la proposition de Donald Trump en rappelant son attachement à la Charte des Nations Unies.
Antoine Bienveau, le Premier ministre espagnol, promet une transparence absolue sur les causes de la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Andalousie. Au moins 40 morts et une centaine de blessés, bilan toujours provisoire dans cet accident impliquant deux trains des compagnies Irio et Renfe. Les premières investigations permettent d'écarter pratiquement la piste de l'erreur humaine, selon le ministre des Transports, qui évoque, je cite, un accident extrêmement étrange. Trois jours de deuil national sont décrétés en Espagne.
Il est 20h05 sur Europe 1. Les habitants des quartiers de Narbonne, évacués hier soir, ont pu regagner leur domicile à la mi-journée.
Évacuation décidée par la préfecture en raison des intempéries et des risques de crues. Quatre départements restent en alerte orange ce soir. L'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Charles Huillier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Coursan, près de Narbonne, où le plus dur de cet épisode semble être passé.
Oui, tout à fait. L'heure est un peu au bilan ici. Il est tombé l'équivalent de 4 mois de pluie en l'espace de 48 heures dans le département. La pluie qui continue en ce moment, mais dans des proportions bien moindres. L'Aude, ce fleuve qui traverse plusieurs villages, notamment celui où je me trouve, est évidemment toujours en crue. Mais là encore, la situation semble sous contrôle et le maire, Édouard Rocher, reste vigilant.
Là, vous avez l'Aude, vous avez sur toute la partie droite, la commune qui est protégée par une digue, celle qu'on voit tout à fait ici. Et les élus sont présents en cellule de crise, j'y suis présent. Les services techniques sont mobilisés. On photographie, on contrôle les digues, on téléphone aux campagnes ou aux habitants s'il y a le moindre risque et on contrôle surtout les ouvrages.
Des ouvrages qui ont très bien résisté ici et des habitants qui, pour la plupart, sont rentrés chez eux. Quelques personnes considérées comme vulnérables sont encore, à l'heure qu'il est, hébergées dans un gymnase à Narbonne. C'est le cas d'Isabelle.
Moi, je suis handicapée, j'ai 63 ans. J'ai quitté le logement parce qu'il fallait évacuer le quartier et je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir rentrer chez moi et je suis un petit peu inquiète. Je suis très anxieuse.
Voilà, alors malgré l'inquiétude légitime d'Isabelle, peu de dégâts ici et la vigilance orange actuellement en cours devrait être rétrogradée dans la soirée.
Charles Huillier, envoyé spécial d'Europe 1 à Coursan, près de Narbonne. 72 interventions de pompiers réalisées depuis hier dans le département de l'Aude. Une personne se trouve en urgence absolue après un accident lié aux intempéries.
Après plusieurs semaines d'interruption, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public reprennent aujourd'hui.
Parmi les personnalités appelées à être auditionnées dans les prochains jours, les journalistes Léa Salamé et Laurent Delahousse ou encore la ministre de la Culture, Rachida Dati. Un homme au centre de l'attention, le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Alloncle, vivement critiqué par les défenseurs du service public. Mais Maïalène Trémollet, pas question pour ce jeune élu de changer de méthode.
Les polémiques continuent, mais Charles Alloncle persiste. On ne me censurera pas, on ne me bâillonnera pas, explique-t-il dans les colonnes du Point. Une référence directe aux multiples critiques formulées ces dernières semaines sur sa gestion des auditions, à commencer par un rappel à l'ordre de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur les antennes de Radio France. Des critiques qui ont même amené le président Jérémy Patry-Lettus à interdire toute diffusion en direct des travaux de la commission sur les réseaux sociaux. Dans l'entourage de Charles Alloncle, on dénonce un coup de communication du président et on refuse de s'inquiéter. Les Français nous suivent avec un intérêt croissant et je reçois des milliers de messages de soutien, martèle l'élu UDR, pour qui le plus important est désormais de parvenir au bout des auditions. Et le rapporteur sait que l'enjeu des prochains mois est double, puisqu'il doit d'une part maintenir l'exigence de ces questions pour dévoiler l'ensemble des potentielles dérives et gabegies de France Télévisions et Radio France, et d'autre part préserver la crédibilité et le sérieux de cette commission pour donner tort aux accusations de tribunal médiatique ou politique portées par une partie des députés. députés qui en sont membres.
Maïalène Trémollet, un accord complémentaire signé à l'Élysée sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Annonce d'Emmanuel Macron ce soir après 3 jours de réunion avec les différents élus de l'archipel, à l'exception des indépendantistes du FLNKS qui boycottent ces discussions. Ce nouveau compromis est présenté donc comme un complément à l'accord de Bougival signé l'été dernier. La Fédération marocaine de football saisit la CAF et la FIFA après les incidents survenus au cours de la finale de la Coupe d'Afrique hier soir à Rabat entre le Maroc et le Sénégal. Les Sénégalais se sont imposés après avoir quitté le terrain pendant plusieurs minutes pour protester contre une décision de l'arbitre. Un départ suivi d'affrontements entre des supporters et des stadiers. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs, indique la partie plaignante. Et puis il était une icône de la haute couture, le styliste italien Valentino est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans chez lui à Rome. Cet emblème de la Dolce Vita des années 60 s'est fait connaître en habillant des stars d'Hollywood comme Audrey Hepburn, Sharon Stone ou encore Julia Roberts. L'Italie perd aujourd'hui une légende, écrit la première ministre transalpine Giorgia Meloni.
Il vous a habillé, Marlène Duret, Valentino ?
J'aurais bien aimé.
Ah oui, les rouges Valentino. D'ailleurs, c'est devenu une teinte de rouge particulière.
Si vous avez un plan, je suis preneuse.
Un plan ? Oui. Bah, il est mort, là. Donc,
non, mais
ça
avec la nouvelle génération, avec la relève.
Vous débrouillez-vous. De nouvelles pluies, en attendant, sont attendues en Bretagne demain.
Oui, nouvelle saucée, si vous m'autorisez cette familiarité. Une perturbation va glisser progressivement du Finistère le matin en direction de l'Ille-et-Vilaine et du Pays Nantais. Ce sera en cours de journée avec moment de bonne pluie. Le vent va souffler également assez fort entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. Le vent qui pourra atteindre les 90 km à l'heure en pointe. En revanche, l'épisode méditerranéen va s'atténuer. On a déjà le l'Aude qui va sortir de l'alerte orange pluie-inondation à 22h ce soir. Les Pyrénées-Orientales et les deux départements corses sortiront un petit peu plus tard, à 6h demain matin. Donc, ce qui veut dire que on va avoir encore des pluies qui vont circuler du Languedoc-Roussillon à la Corrèze demain matin, en passant par une partie de Midi-Pyrénées. Puis ensuite, elles vont régresser et elles vont se limiter l'après-midi au Roussillon. Et puis en Corse, l'est de l'île sera arrosé. Et là aussi, les pluies vont perdre du terrain. Sur le reste du territoire, ce sera du temps sec. Un ciel généralement assez chargé à l'ouest, avant de voir apparaître des éclaircies. Elles seront même assez belles dans le sud-ouest. Et puis un temps lumineux en allant vers l'est, mais avec un risque de grisaille persistante dans le Val-de-Saône et le Grand Est. Alors les températures, justement, seulement 3 degrés à Strasbourg, qui devrait rester sous la grisaille l'après-midi. Même chanson à Dijon, 5 degrés pour demain après-midi. Il fera 6 à Reims, 9 à Brest, 10 à Paris et Toulouse, 11 à Tours et Perpignan, 14 à Biarritz, 16 à Marseille et jusqu'à 17 à Ajaccio.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, Alexandre Devecchio, nous vivions côte à côte itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Petit blanc, il l'a vécu en Seine-Saint-Denis quand il était petit, Devecchio, et il se faisait traiter de sale blanc et de sale français. Tout ça n'est pas nouveau. Il nous explique. Le livre est publié chez Fayard. Nous le recevons dans quelques instants sur Europe 1.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1.
La radio libre.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et vous n'allez pas encore à vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore à vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Vous êtes avec votre amoureux sur les canapés. Et vous jouez à qui cuisine ce soir. Vous avez rangé l'appart. Il a passé l'aspi. Ça fait un partout. Ah, là, va falloir négocier. Alors, vous commandez des sushis sur Deliveroo. Et lui, il étendra le linge. Même pas obligé de lui dire que vous avez profité de l'offre un plat acheté, un plat offert. Et voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer.
N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisières pour des vacances d'exception tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisières. En ce moment, cédez à l'offre l'appel du large, réservé pour vous, et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 0800 03 03 03, service et appel gratuit, et sur cfc-croisière.fr.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité, durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena.
Copain, je suis déjà reine. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Peugeot.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux? Même pas d'apport?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule. Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partenaire est à partir de 235€ hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
Europe 1. Le journal permanent.
À 20h15 sur Europe 1, Sébastien Lecornu officialise l'utilisation dès demain de l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le budget de l'État à l'Assemblée. À son arrivée à Matignon, le Premier ministre avait annoncé qu'il renonçait à cet outil constitutionnel. LFI et le RN annoncent déposer des motions de censure. Le PS ne va pas voter cette censure. Le gouvernement devrait donc se maintenir. Au moins 40 morts hier soir dans la catastrophe ferroviaire en Andalousie. Plusieurs wagons d'un train à grande vitesse ont déraillé, puis ont été percutés par un autre train à grande vitesse qui roulait en sens inverse. Les causes de l'accident restent inconnues. 3 jours de deuil national ont été décrétés. L'Aude placée en alerte orange au cru. Les intempéries se poursuivent et provoquent localement des débordements de cours d'eau et des inondations, mais leur plus faible intensité en début d'après-midi a permis la levée de certaines mesures préventives comme l'évacuation d'habitations à Narbonne. Le président de la FIFA dénonce des scènes inacceptables au lendemain de la finale chaotique de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc 1-0, match émaillé de violence en France. 63 personnes interpellées, dont 25 en Île-de-France. 14 policiers ont été légèrement blessés. La mort de Valentino, aujourd'hui à l'âge de 93 ans, le couturier du Gotha, qui avait ouvert sa première boutique à Rome en 1959, s'était fait une spécialité d'aller habiller le tout Hollywood, d'Elizabeth Taylor à Audrey Hepburn, en passant par Sharon Stone ou encore Julia Roberts.
Europe 1 soir,
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 21h avec moi, Jean-Claude Dacier. Bonsoir cher Jean-Claude.
Bonsoir.
Bonsoir Hélène Rouet.
Bonsoir
journaliste
Pierre.
Politique au Journal du Dimanche. Encore un journaliste. Bonsoir Alexandre Devecchio.
Bonsoir Pierre.
Mon confrère du Figaro, Figaro Magazine, auteur de « Nous vivions côte à côte » qui paraît chez Fayard. J'avais une question assez bateau à vous poser. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? J'aime pas poser cette question-là, mais c'est vraiment une question que je vous pose pour le coup.
Pourquoi ce livre ? Je crois que parce que il y a des constats qui sont faits, beaucoup. Il n'y a pas eu besoin de moi pour les faire d'une certaine manière.
Le diagnostic est posé.
Le diagnostic est posé par beaucoup de monde. Mais je crois que pour convaincre, et notamment pour convaincre une partie des élites, parfois le récit est plus intéressant que l'essai purement sociologique, si vous voulez. Et je voulais passer par le récit aussi pour faire quelque chose de complexe, de pas manichéen, et surtout pour redonner un visage et une dignité aux classes populaires de banlieue, d'où je viens. Je n'y appartiens plus vraiment, je suis journaliste au Figaro.
Bah vous dites que vous êtes désormais bobo, que vous habitez à côté du Figaro, que vous aimez bien flâner dans Paris, dans les restaurants chics.
Exactement, je suis tout à fait honnête dans le livre, mais je retourne aussi voir mes parents chaque week-end et je me désespère de la situation de la banlieue et je me dis par fidélité aux miens, il fallait que je fasse quelque chose et surtout voilà, que je leur redonne de l'humanité parce qu'ils ont souvent été méprisés, invisibilisés, traités de racistes par la classe politique. Beaucoup d'incompréhension, de la colère d'une partie des Français. Je voulais montrer par des faits précis, par des images, par le récit, pourquoi leur colère était légitime.
Deux choses. La première, c'est que vous risquez d'être victimisé, c'est le risque de vouloir se victimiser, ce qui, j'imagine, n'est pas votre intention.
C'est pas mon cas.
Mais en même temps, vous racontez, c'est le récit, effectivement, du,
du petit blanc de banlieue, comme on le voit en couverture, avec des origines italiennes, portugaises. Et alors, il y a quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a interpellé, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, qui est encore très contesté par LFI, par beaucoup de protestataires, mais qui est un fait en soi, le racisme anti-blanc existe. Beaucoup de gens se disent, mais ça existe depuis 2-3 ans, pas du tout. Vous, ce que vous expliquez, c'est que ça existe depuis 40 ans.
Oui, ça existe depuis des années. Et le paradoxe, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est qu'il est né d'une certaine manière de l'antiracisme. On a tellement expliqué que les classes populaires blanches étaient racistes, etc., qu'on s'est autorisé à les mépriser, à les détester, et qu'on a fait le jeu même de l'islamisme et du communautarisme. Donc l'antiracisme a été dévoyé par des associations qui avaient parfois d'ailleurs un intérêt financier dans la question, et l'a muté peu à peu en antisémitisme, puisque avant le racisme anti-blanc dans les banlieues, il y a eu l'antisémitisme et ensuite le racisme anti-blanc. Après, vous parliez de victimisation, c'est intéressant. Moi, j'ai pas envie de tomber dans le discours plaintif. Il y a déjà assez d'antiracistes professionnels comme ça. Soit le racisme anti-blanc est une réalité, mais c'est pas un livre de déploration, c'est plutôt un livre de combat. Je vous disais tout à l'heure que je voulais redonner de la fierté à ces classes populaires. Je montre aussi en quoi elles sont combatives, en quoi elles sont humaines et en quoi la société peut s'appuyer sur elle pour avancer. Le livre a aussi une forme d'éloge de l'assimilation. L'assimilation se fait par le haut. Les élites y ont renoncé, mais elle se fait aussi par le bas, par le voisinage, par le contrôle social, justement, qu'imposaient ces classes populaires, qui étaient jusqu'alors un modèle de référence et qui sont devenues malheureusement un contre-modèle depuis tant d'années. Et j'ai envie d'inverser les choses.
Alexandre Devecchio, si le phénomène de racisme, et notamment de racisme anti-blanc, n'est pas nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est l'instrumentalisation politique de ces classes populaires à des fins électorales? C'est ça qui est nouveau?
Non, je pense que ce qui est nouveau, c'est que des partis politiques qu'on dit populistes se sont quand même emparés des questions. J'appelle pas ça une instrumentalisation. Je pense qu'elles se sont emparées de ces questions-là. Et ma foi, je trouve ça bien, puisque les classes populaires ont enfin une voix sans vouloir faire de la politique. Je crois que pour le RN, on peut pas se contenter de dire bon, le RN a le bon diagnostic, mais il a les mauvaises solutions.
Je parlais des LFI, moi, en l'occurrence.
Ah, LFI. Alors ça, si vous parlez de
l'instrumentalisation politique
du communautarisme, oui. Oui, effectivement. Le racisme anti-blanc existait. Enfin, ce que je raconte, c'est une progression. Donc, le communautarisme, le racisme anti-blanc a progressé sur fond d'abord d'immigration massive, de flux migratoires pas maîtrisés, de travail sur le terrain, notamment des frères musulmans, d'associations de gauche dévoyées. Mais effectivement, LFI, c'est un degré de plus, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a un parti de gauche. Le clientélisme existe depuis longtemps.
Parce que LFI, mais ça existe depuis 10-12 ans.
En fait, et qu'il le fait de manière aussi décomplexée. Mais il y avait déjà du clientélisme. Je raconte justement le Parti communiste français dans la banlieue rouge, et c'était pas si différent que
inexistant.
Il a été remplacé par. Alors, il y a eu un parti communiste qui avait justement qui s'adressait aux classes populaires, qui avait des valeurs dans lesquelles même un homme de droite peut se reconnaître. Mais il y a eu un parti communiste en banlieue qui déjà était communautariste, tout simplement à cause des flux, puisque leur électorat ouvrier avait disparu dans ces cités, et du coup, ils ont fait du communautarisme. En fait, LFI, c'est quand même une version moderne de ce parti communiste de la banlieue rouge, qui là ne pèse plus, mais qui d'une certaine manière a été remplacé par l'islamo-gauchisme de LFI.
Hélène Rouet pour le JDD.
Est-ce que vous avez senti qu'il y a un moment précis, une date, un événement où là vous vous êtes vraiment dit « Ah oui, il y a quelque chose qui est en train de se casser aujourd'hui avec notamment la banlieue ». Est-ce qu'il y a un événement précis ou c'est vraiment une évolution ?
C'est une évolution que je décris. Je décris dans le livre 40 ans d'évolution par petites touches, et je dis aussi que les classes populaires n'ont pas tout vu. Tout de suite, même les gens qui étaient sur place, sur le terrain, qui ont grandi en banlieue, ont cru à un moment donné, non pas à vivre ensemble, j'ai toujours pensé que c'était une arnaque, mais
vous êtes pas le seul,
mais à vivre côte à côte. Il y avait des tensions, il y avait de la violence, de l'insécurité, mais par exemple, l'islamisme est venu après. Moi, quand je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, on avait des instituteurs de gauche, mais qui avaient des bonnes valeurs, qui étaient laïques, qui respectaient les fêtes chrétiennes. Il y avait un sapin de Noël à l'école. Il y avait une crèche, ça posait, si vous voulez, aucun problème. Il y avait certes un choix d'un autre menu à la cantine quand il y avait du porc, mais il n'y avait pas le halal, il n'y avait pas les femmes voilées. Et il y a eu un premier tournant, ça a été le 11 septembre. C'est un tournant d'ailleurs étonnant, parce que moi, quand il y a eu le 11 septembre, on s'est dit, les musulmans vont dire pas en notre nom. Et malheureusement, c'est l'inverse, notamment chez les jeunes de la deuxième ou la troisième génération. Au lieu de s'identifier aux victimes, ils se sont identifiés à ceux qui se dressaient contre l'Occident. On a vu des tags « Vive Ben Laden » dans certaines cités. On a vu, moi je me souviens, je vous raconte la scène quand je suis au lycée au lendemain du 11 septembre. Et d'ailleurs, je le prends pas au sérieux. Déjà, le discours sur la Palestine en disant « Mais pourquoi on s'émeut autant de ces morts ? Il y a beaucoup de morts. » En Palestine, personne ne dit rien. Donc c'est quelque chose qui était en germe et qui s'est accéléré après le 11 septembre. L'islamisme a progressé, comme il a progressé malheureusement après 2015 et la vague d'attentats islamistes.
Jean-Claude Dacier.
Dis-moi, politiquement, je dis bien politiquement, qu'est-ce qui te reste de ces années-là ?
Politiquement, moi, j'ai pas tant évolué que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. J'ai jamais été un homme complètement de gauche, parce que je vous dis, j'ai jamais cru au vivre ensemble, et donc déjà, il y avait un problème d'insécurité massive. Et je pense que le problème principal dans les banlieues, depuis ma naissance, c'est quand même l'insécurité. Donc il y avait un réflexe de fermeté. Ça faisait pas moi un homme, et je crois que je ne suis toujours pas un homme forcément très à droite sur le plan économique et social. Moi, je pense que l'une des missions de la gauche était justement de défendre les classes populaires. Elle les a trahies, aussi bien sur le plan économique en se convertissant à la mondialisation que sur le plan culturel, parce que l'ouverture des frontières, ça a été aussi l'immigration massive. Je suis fils de petits commerçants, plutôt de droite quand même, plutôt libéral, qui n'aime pas trop les infos, mais ils ont vécu le double choc de la mondialisation qui était à la fois économique et culturel. Économique, parce qu'ils étaient dans le textile. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mes parents allaient à Troyes, il y avait des usines partout, toutes les usines ont fermé. Donc le choc économique d'un côté, le choc culturel de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un pavillon de banlieue dans les années 70, qui était un havre de paix, et aujourd'hui, au moment de partir à la retraite, ils sont piégés chez eux, ils ne peuvent pas le revendre parce que personne veut l'acheter, parce que l'environnement autour, il n'y a plus que des commerces communautaires, il y a une violence telle que ça fait...
Ce que vous décrivez dans le livre.
Exactement.
Ce que vous décrivez dans le livre,
et moi, je n'ai pas fait ça, encore une fois, pour me plaindre, j'ai fait ça pour humaniser justement toutes ces classes populaires, que les élites se mettent un peu à leur place et décentrent en quelque sorte leur regard.
Alexandre Devecchio, pour le livre « Nous vivions côte à côte », référence bien sûr à la phrase de Gérard Collomb, feu l'ancien ministre de l'Intérieur, qui disait « Avant nous vivions côte à côte, maintenant nous vivons face à face ». Et d'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça dans votre livre. Il y a un autre environnement que vous décrivez, et c'est assez intéressant, dans le sens où d'ailleurs la commission sur l'audiovisuel public va reprendre. Vous parlez de vos études au CFJ, le Centre de Formation des Journalistes, et il y a eu, au moment où il y avait l'élection présidentielle, où c'est François Hollande finalement qui gagne l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy, un scrutin, une ou deux semaines avant, pour vous, pour les étudiants du CFJ. Et là, stupeur et tremblement, vous vous rendez compte que 95%...
Je ne suis pas totalement surpris, mais quand même...
Je ne sais plus combien, mais enfin, il y a 50-50, ils votent Mélenchon et François Hollande.
Et Hollande. Non,
et il n'y en a pas un seul qui vote
pour
Sarkozy.
Pour être exact, c'est Mélenchon-Hollande au second tour, Eva Joly en troisième homme, qui a dû faire 2% dans l'élection.
Et vous avez voté pour Nicolas Dupont-Aignan.
Et c'était tellement loin de leur univers qu'ils ont cru que c'était une blague, qu'ils l'ont compté dans les bulletins blancs. Donc c'est quand même amusant, et ça traduisait le décalage, ce que j'expliquais, entre les élites médiatiques et une partie du peuple français.
C'est le refus du débat, en fait.
Voilà.
C'est le refus du débat de certains journalistes qui vous disent « bah non,
oui,
c'est pas possible ».
Et puis parce
bah non, t'as pas le droit de penser ça.
Il y a de ça, il y a aussi qu'ils venaient d'un milieu différent, qui ne voyaient pas la réalité. Et vous avez raison, il y avait un sentiment de supériorité morale, pensaient être antiracistes, ils pensaient qu'en fait les classes populaires ne comprenaient pas la complexité du monde et exagéraient la situation. Et donc, vous m'avez posé une question au début en disant « pourquoi ce livre ?» En tout cas, je pense que c'est en sortant du CFJ que j'ai compris le genre de journalisme que je voulais faire. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment justement de porter une voix différente, surtout que je suis sorti effectivement au moment de l'élection de François Hollande. Et souvenez-vous, en 2012, il y a les attentats il y a les attentats de Mohamed Merah. Et je décris aussi dans le livre les réactions des jeunes journalistes vis-à-vis de ces attentats-là, qui ne veulent rien voir, qui pensent que c'est un attentat d'extrême droite et qui manifestent leur déception quand ils s'aperçoivent que c'est du terrorisme islamique.
Leur déception.
Oui, il y a un étudiant que je ne citerai pas, qui est maintenant rédacteur en chef au Monde. Je crois qu'il est à Libération à l'époque. Il vient de commencer son. C'est Nicolas Chaput, je peux le citer parce que je le cite
dans le livre. Je le cite quand même.
Non, parce que ce qu'il dit est public. Il fait un tweet où j'ai plus les termes exacts. Il a peut-être changé depuis, je ne vais pas l'accabler, mais en disant dommage qu'il n'était pas d'extrême droite, sans un mot pour les victimes. Donc ça dénote une incompréhension,
sidérant,
et ça dénote un combat de retard en réalité, parce que le problème aujourd'hui, c'est pas l'extrême droite, ceux qui tuent les juifs, ce sont les terroristes islamistes.
Vous restez avec nous, Alexandre Devecchio, beaucoup de questions à vous poser, et également sur l'actualité brûlante, puisque ça ne vous a pas échappé, c'était pas non plus un grand suspense, mais Sébastien Lecornu a décidé d'appliquer le 49-3, et on va écouter votre analyse là-dessus. Je vous signale que demain soir, CNews et Europe 1 vous donnent rendez-vous de 21h à 22h pour La France en face, une heure d'entretien en toute liberté avec Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard qui répondra aux questions croisées de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. La France en face, demain soir, 21h, 22h, en direct et en simultané sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 20h30, Maëlle Assani.
Emmanuel Macron salue une copie budgétaire qui garantit la stabilité et permet, je cite, au pays d'avancer. Une copie budgétaire largement inspirée des exigences du Parti Socialiste et que Sébastien Lecornu va faire adopter en force en utilisant le 49-3. Le Premier ministre l'a confirmé tout à l'heure, reconnaissant un semi-échec. Les motions de censure déposées par LFI et le RN n'ont aucune chance d'aboutir en l'absence des voix du PS. Les choses peuvent bouger. Les mots de Monseigneur Mathieu Rouget, invité d'Europe 1 soir, à la veille des débats sur la fin de vie dans l'hémicycle du Sénat. L'évêque de Nanterre espère que le texte contiendra davantage de garde-fous que la version adoptée à l'Assemblée il y a quelques mois. Version qui prévoit de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté pour les malades dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Après 3 jours de discussion à l'Élysée, Emmanuel Macron annonce un nouveau compromis sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Un accord complémentaire à l'accord de Bougival signé l'été dernier. Ces nouvelles discussions sont boycottées par les indépendantistes du FLNKS. 300 foyers privés d'électricité ce soir dans l'Aude, une cinquantaine de routes toujours fermées à la circulation dans le département. 2 personnes hospitalisées en urgence absolue après des accidents liés aux intempéries. Mais la situation s'améliore, l'alerte orange devrait être levée d'ici 1h30 dans l'Aude. Et puis la star française du basket, Victor Wembanyama, sélectionné parmi le gratin de la NBA. L'intérieur des Spurs de San Antonio vient d'être choisi pour disputer le All-Star Game mi-février à Los Angeles.
Merci Maëlle, à tout à l'heure pour le rappel de l'actualité.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Autour de la table, Hélène Rouet du JDD, Jean-Claude Dacier, Alexandre Devecchio pour son livre « Nous vivions côte à côte chez Fayard ». C'est un rapport quasiment direct avec votre livre et avec cet islamisme rampant qui s'est installé dans les banlieues que vous décrivez dans votre ouvrage, Alexandre. Cette conférence polémique à la Grande Mosquée de Paris, Gabriel Souleika, écrivain et militant algérien, a tenu des propos polémiques concernant la Shoah lors de cette conférence. C'était le 19 novembre dernier. On écoute.
1,5 million de morts. C'est un chiffre effarant. Ça dépasse les 1 million de morts de la Shoah, dont on nous parle de manière systématique. Bien sûr qu'il faut parler de la Shoah. Des centaines de livres, des films, des documentaires. Jusqu'à aujourd'hui, il faut en parler, bien sûr. Mais qui parle des 1,5 million de morts en Algérie ? La France et sa mission civilisatrice ? Moi, j'ai du mal à la comprendre.
Alors, c'est choquant parce que c'est pas le bon chiffre. C'est pas 1 million, c'est 6 millions. Et c'est choquant parce qu'on compare. Qu'est-ce qu'on va comparer et qu'est-ce que c'est que ce narratif ? Est-ce que c'est justement ce narratif-là qui est répété, que vous combattez ?
J'ai failli appeler le livre « Une contre-histoire des banlieues », justement, parce que malheureusement, le narratif sur les banlieues, ce sont l'extrême-gauche, les islamistes qui se sont appropriés, avec toujours ce discours victimaire. Et dans le discours victimaire, il y a effectivement la France coloniale. Je raconte dans le livre mon passage à Paris 8, puisque j'ai fait des études d'histoire à Paris 8, et je raconte le tout début des indigènes de la République. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un professeur qui est décédé depuis, qui s'appelait Daniel Lefeuvre, qui était spécialiste d'histoire coloniale, qui avait justement déjà à l'époque, parce qu'il voyait monter ses idées décolonialistes dans l'université, et là pour le coup, pas seulement dans une population d'origine immigrée, chez des professeurs, c'était le wokisme avant l'heure. Il avait fait ce livre pour en finir avec la repentance coloniale, où justement il démontait tous les mythes autour de la colonisation, en expliquant que, bah, en rappelant déjà que la colonisation, ça a existé. Toutes les civilisations en ont colonisé d'autres. C'est pas le propre, effectivement, de la France. Et puis, il n'y a pas eu de génocide algérien. Là, on parle de génocide palestinien. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais dans les banlieues, moi, je me souviens très bien, le discours dominant était autour d'un supposé génocide de la France en Algérie. Donc, en réalité, c'est une rhétorique qu'on connaît depuis longtemps, mais maintenant qui est devenue effectivement totalement décomplexée, notamment parce que LFI la manipule très ouvertement, et peut-être parce qu'on tend un peu plus les oreilles qu'avant, puisqu'on a, on a été confronté au terrorisme.
Jean-Claude Dacier.
Je reviens, si tu le permets, une seconde sur ton bouquin et les banlieues, qui ont beaucoup changé, semble-t-il, depuis 20 ans. Est-ce que tu penses simplement que c'est foutu ?
Non, j'ai pas.
Qu'il n'y aura pas d'intégration possible d'une banlieue à ce point modifiée et largement.
Non, j'ai pas écrit ce livre pour dire tout est foutu, parce que sinon c'est même pas la peine.
Non, mais ton analyse.
Analyse, je crois pas. Je crois que bon, il faut d'abord, il y a une priorité, c'est stopper les flux migratoires. Je ne vais pas dire les arrêter parce que c'est impossible, mais les réduire drastiquement. Parce que la première cause quand même de la désintégration, de la non-intégration, c'est que quand on a une population, des peuples entiers qui arrivent, on ne peut pas les assimiler. Le livre est un éloge de l'assimilation, mais l'assimilation fonctionne avec des individus, elle ne fonctionne pas avec des peuples. Donc la première chose, et ça c'est que seulement du ressort de l'État, c'est effectivement de stopper les flux migratoires. Ensuite, moi je crois qu'il y a une forme d'assimilation possible. Alors il y a sans doute une génération perdue, mais il va falloir gagner la suivante. Et je crois quand
c'est
même...
laquelle du coup qui est perdue, c'est laquelle qu'on peut gagner.
Peut-être que la mienne est perdue.
D'une certaine... même les 15-24 ans, regardez le sondage IFOP dont on a beaucoup parlé en novembre dernier. C'est les 15-24 ans qui placent à 57% les lois de l'islam avant les lois de la République.
La dynamique.
Et ce sont pas des fanatiques qui veulent sortir une Kalachnikov, qui veulent tuer les mécréants. Ce sont juste qu'ils ont tellement baigné dans cette culture civilisationnelle que ils voient pas le problème que, oui, à l'école, ils doivent manger halal, que, oui, ils doivent porter le voile, que, oui.
Non, mais vous décrivez.
Et en fait, ils voient pas du tout le problème.
Vous décrivez très bien ce que je décris. Effectivement, ça, un bouleversement démographique tel que les codes
sociaux... Donc le point de non-retour, il est là.
Il est, effectivement, le point, je vais pas mentir.
Est-ce que vous voulez maintenant à un jeune de 18 ans dire, en fait, tout ce qu'on t'a appris dans ta famille, c'est pas ça.
Le point de non-retour est pas loin. Le point de non-retour est pas loin d'être atteint. Mais si vous voulez, il y a quand même les générations suivantes. Et moi, sur la génération d'avant, qui était déjà dans cette tendance-là, peut-être la dynamique était moins forte, mais il y avait déjà cette tendance-là. J'essaie dans le livre de me mettre dans leur tête. Et ce que je vois quand même, c'est que ce sont beaucoup d'individus qui ont non pas une double culture, mais deux sous-cultures. La France leur a rien transmis à part la culture McDo, et ils sont rapprochés. Ils se sont beaucoup rapprochés à une identité fantasmée, un pays de leur pays d'origine qu'ils connaissent très mal, et l'islam parce que ça leur donne un idéal, une transcendance.
Donc, et maintenant McDo s'adapte à eux parce qu'ils vendent de la viande halal.
Oui, le KFC,
c'est vrai.
Pas McDo en l'occurrence,
mais pour aller au bout, il ne tient qu'à nous d'inventer un autre récit. C'est aussi le but du livre. Et aussi, moi, si j'ai qu'une seule mesure politique, alors elle est abstraite si vous voulez, mais remettre au centre du jeu les classes populaires, les petits blancs, mais dans les petits blancs, je mets aussi les gens issus de l'immigration qui sont intrigués, les remettre au centre du jeu, parce que l'assimilation se fait par le haut, avec un discours volontariste, avec un autre récit, ou un récit tout court, on n'en a pas du tout aujourd'hui, mais elle se fait aussi par le bas, je vous le disais, par le contrôle social et par le modèle de référence. C'est impossible de dire à une jeunesse « intégrez-vous » quand on présente les Français de souche ou les Français d'un peu plus longue date comme des beaufs, comme des racistes, comme des gens méprisables. Donc, il va falloir leur redonner de la fierté.
Hélène.
Ce qui va être en tout cas très difficile pour effectivement cette nouvelle génération qu'il faudrait essayer d'assimiler, c'est quand on voit les discours que tiennent la France insoumise et les succès effectivement de ces discours-là, notamment auprès des jeunes générations, c'est vrai qu'on se dit que le chemin va être très très long. Quand on écoutait Rima Hassan encore vendredi dernier dire qu'il faut élire quelqu'un qui leur ressemble, tenir des propos qui relèvent du racialisme, et si seulement il n'y avait qu'elle. Enfin, je veux dire, tous les soldats aujourd'hui insoumis de Jean-Luc Mélenchon tiennent ce genre de propos, et je trouve d'ailleurs que ça s'est largement accéléré. On avait Jean-Luc Mélenchon qui a philosophé effectivement sur la créolisation, la Nouvelle France. Maintenant, les petits soldats insoumis, on a l'impression qu'ils la mettent vraiment en œuvre. Donc, je parle d'Ali Duhara, de Carlos Maintenance Bilongo, de Daniel Obono, et il y en aurait encore d'autres à citer. Donc, effectivement, c'est très, très, très... Je pense en tout cas que les municipales vont être un vrai test, en tout cas pour vérifier si LFI déjà a la capacité de prendre certaines villes, etc. Mais quand on voit, oui, ils galvanisent en fait les jeunes générations, notamment de banlieue, grâce à ça, en les ramenant à leur couleur de peau, en leur ramenant à leurs origines en permanence. Et ça qui est très inquiétant si on part dans l'optique que cette nouvelle génération, on va l'assimiler et, entre guillemets, on va la faire devenir française.
Oui, non, je suis entièrement Alexandre d'accord avec le diagnostic. Comme je l'ai dit, le diagnostic est quand même grave hein, et ce n'est pas du tout un livre naïf. Après, j'essaie d'avoir un discours volontariste et vous avez raison, il y a LFI. Mais moi, je ne sépare pas le reste de la gauche de LFI. Je parle même de la gauche médine, parce qu'ils avaient tous, le PS, ils avaient tous invité.
La situation est grave, Alexandre, mais je rejoins la question de Jean-Claude. C'est est-ce que la situation est grave et tout est foutu, ou est-ce que, pour reprendre le titre d'un célèbre navet des années 70, la situation est grave mais pas désespérée. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut dire à ces jeunes dont on vient de parler, écoutez, voilà, on vous a effectivement mis dans la tête un narratif, mais en réalité, si vous voulez vivre en France, il y a quand même deux, trois choses à respecter. Est-ce qu'on peut...
Est-ce qu'on a le droit de désespérer? Je pense pas. Et là où je suis relativement... optimiste, ou en tout cas j'ai l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté, c'est qu'on n'a pas tenté un autre narratif pour le moment. Année après année, on va plus loin dans le narratif plus victimaire. On n'a pas tenté de maîtriser les flux migratoires. Année après année, on rajoute une couche de problèmes à une couche de problèmes. Donc peut-être que si on commençait par un changement de politique, un État fort, capable de se faire respecter, d'autant plus qu'ils cherchent de l'autorité, ces jeunes-là, pour les connaître, on commençait par cela, et ensuite qu'en plus on changeait de discours collectivement, ça irait mieux.
Un mot quand même sur les déclarations de Sébastien Lecornu. On sait que c'est pas il n'y avait pas de suspense, Alexandre Devecchio, mais puisque vous êtes là.
Le problème, moi, pour ramener à mon livre, désolé, mais je dis que le grand problème, c'est d'avoir mis de côté le peuple. Et moi, je pense que l'erreur originelle, c'est de ne pas avoir dissous l'Assemblée ou que Emmanuel Macron n'ait pas démissionné. Je pense que quand on n'est pas souverain, et là, en fait, personne n'a la légitimité politique puisqu'il n'y a pas de majorité qui s'est dessinée, eh bien, il faut aller au peuple, pas avoir peur de lui et accepter l'alternance.
Hélène Rouet.
Oui, non.
Jean-Claude Dacier.
Non, je me disais que ton sentiment que tu exprimes brillamment, ça ressemble un peu à ce que souhaite le Rassemblement National. Je me trompe ou pas?
Bah, écoutez, je défends des idées, donc si je commence à défendre un parti, je vais apparaître comme militant. Donc, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, on a vu des partis défendre des idées et pas toujours les mettre en place. Donc, j'ai pas envie de me mettre à la remorque de quelque parti que ce soit. Et d'ailleurs, je crois pas, si vous voulez, ni à un homme ou une femme providentielle, ni à un parti providentiel. Quand je disais, il faut remettre le peuple au cœur du jeu, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est par référendum. Là aussi, si une décision est prise directement par le peuple souverain, elle sera d'une part davantage peut-être, j'espère, respectée par les juges, et d'autre part, respectée aussi par les nouveaux Français qui se diront, tiens, le peuple français a dit stop de manière directe.
En première heure, nous avions Mgr Mathieu Rouget qui croit en l'espérance sur ce texte de la fin de vie, que au Sénat, les sénateurs fassent un travail suffisamment bon pour que, en deuxième lecture à l'Assemblée, les choses se voient, soient lues différemment qu'en première lecture. Là aussi, j'ai l'impression que vous avez un travail d'espérance, Alexandre Devecchio. Vous parliez tout à l'heure des classes populaires qui sont calfeutrés derrière des murs, dans des cages d'escalier où ils n'osent pas sortir, où ils n'osent pas finalement dire. Finalement, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui muets, pas du tout par volonté, mais par nécessité, parce qu'ils ont peur des représailles, tout simplement. Dans les cités, on les voit, c'est certaines personnes qui ne mouftent pas, parce qu'il y a le dealer à côté, et qui va leur dire, tu n'as pas à prendre la parole. C'est pour ces gens-là que vous écrivez ce livre.
Exactement, et je pense que quand ces gens-là retrouveront la parole, seront de nouveau en capacité d'exercer un minimum de contrôle social, quand ils pourront apparaître comme un modèle de référence, je pense que ce sera déjà un immense progrès. Et pour ne pas me défiler sur le Rassemblement National, moi je milite pour aucun parti, mais on peut expliquer effectivement le succès du Rassemblement National, parce que c'est à peu près depuis 30 ans le seul parti qui s'est emparé de ces questions-là et qui a tenté de s'adresser à ces classes populaires là.
Merci beaucoup Alexandre Devecchio. Votre livre est déjà un succès en librairie. Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue. C'est aux éditions Fayard. Une pause, le rappel des titres et on reparle de l'actualité sur Europe 1. A tout de suite.
On de la traconte.
Le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Chaque jour, découvrez ou redécouvrez une histoire qui vous révèle les tréfonds de l'âme humaine.
Ça n'est pas un accident de chasse. Quatre cartouches, c'est une exécution.
On de la traconte. À écouter en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
Et vous n'allez pas encore vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Il est 19h et vos enfants vous ont déjà demandé 11 fois « Quand est-ce qu'on mange ?» Entre ça, les devoirs, le bain et votre fils qui vous explique pourquoi les billes bleues, elles sont super rares, là, c'est pas votre meilleure soirée. Alors, vous commandez des pizzas pour toute la famille. En plus, devinez quoi ? Pour un plat acheté, vous avez un plat offert sur une sélection de restaurants. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là on est bien.
Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, le journal permanent.
20h45, Maëlle Hassani.
La patronne des écologistes, Marine Tondelier, déplore la naïveté du Parti Socialiste. Le PS, qui refuse de voter les motions de censure déposées par LFI et le RN, en réponse à l'utilisation du 49-3 par le Premier ministre sur le budget de l'État. Un choix en contradiction avec l'engagement pris par Sébastien Lecornu à son arrivée à Matignon. Il exprime aujourd'hui des regrets et un peu d'amertume. Le Maroc accepte l'invitation de Donald Trump à rejoindre le nouveau Conseil de la paix, une instance pensée et dirigée par le président américain pour contourner l'ONU. Le roi Mohamed VI répond favorablement à ce projet. En tant que membre fondateur, le tarif d'entrée est fixé à 1 milliard de dollars pour un siège permanent. 40 morts et une centaine de blessés, dernier bilan de la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Andalousie. Plusieurs wagons d'un train à grande vitesse ont déraillé pour une raison encore inconnue et sont entrés en collision avec un autre train circulant en sens inverse. 3 jours de deuil national décrété en Espagne. Un homme est décédé aujourd'hui dans une avalanche dans les Alpes. Ce trentenaire faisait partie d'un groupe de 6 skieurs qui évoluaient hors piste dans le couloir du Avanché à Val d'Isère en Savoie. Les faits se sont produits en fin d'après-midi. Et puis l'Italie perd aujourd'hui une légende, l'hommage de la première ministre transalpine Giorgia Meloni après l'annonce du décès du styliste Valentino à l'âge de 93 ans. Cette icône de la haute couture s'est faite connaître en habillant de nombreuses stars d'Hollywood.
Merci Maëlle Hassani.
Europe 1 soir,
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avant de parler des sujets étrangers qu'a évoqué Maëlle Hassani, notamment avec ce conseil de paix, est-ce que c'est pas le nouvel ordre mondial que veut instituer Donald Trump?
Le ticket d'entrée est très élevé.
Oui, mais Mohamed VI, bon, oui, 1 milliard.
Oui, pourquoi pas.
Vous n'avez pas, attendez, j'ai 1 milliard sur
moi. Si c'est l'État qui paie, si c'est l'État qui paie, ça va, mais je me suis posé la question.
Je peux vous payer en 2 fois.
Pour Tony Blair, qui va payer?
Ben oui, on
si
se
lui doit payer, je sais pas.
Ben, je sais pas non plus.
Non, honnêtement, c'est
non, mais il y a des fonds d'investissement.
Non, c'est n'importe quoi.
On sait pas. Hélène Rouet voulait revenir 2 secondes sur la politique française avec les issues de ce 49-3 et surtout la position des Républicains.
Mmh. Oui, bon, au-delà du fait qu'effectivement la parole politique est encore une fois dévaluée, parce que vous l'avez rappelé, Sébastien Lecornu avait dit qu'il n'utiliserait pas du 49-3 le 3 octobre dernier. Donc évidemment, bon, en réalité, personne n'était dupe, mais c'est vrai qu'il l'a tellement martelé qu'encore une fois, bon, bah, la parole politique, il ne faut pas s'étonner que les Français ne l'écoutent plus. Mais je trouve que le plus significatif, effectivement, dans toute cette fin de crise, parce qu'effectivement, maintenant, on a un budget, c'est en fait à quel point les LR n'ont pesé sur rien et en plus n'ont rien obtenu. Parce que bon, on comprend bien que Sébastien Lecornu, il a tapé dans la main des socialistes, il a réussi à obtenir ce fameux accord de non-censure. Politiquement, c'est très habile, hein. Donc effectivement, il a réussi à ce niveau-là. Mais les LR, quand on voit la teneur du tweet de Bruno Retailleau, qui est quand même le dirigeant du parti il y a maintenant quelques heures, qui lui parle d'un budget socialiste, qui dit que c'est les Français qui vont trinquer, qui dit en fait qu'il va y avoir encore plus d'impôts, donc vraiment qui critique ce budget, ça va être intéressant de voir la position des LR demain. Les LR demain, ils vont encore être complètement divisés.
Mais
ils
les LR,
n'écouteront pas du
LR,
tout la parole de Bruno
LR
Retailleau.
Évoquer a dit tout à l'heure qu'il attendait de voir la copie. Alors vous me dites que vous me dites qu'il y a Retailleau qui a déjà vu la copie visiblement et qui dit que c'est qu'il n'y a rien qui va. Et Évoquer,
ils ont gagné sur un point. Au moins c'est qu'il n'y a pas d'impôt nouveau.
Vous les avez vus tout à l'heure. Ils étaient ensemble.
On est bien d'accord.
Ils étaient en
non.
Bruno Retailleau dit pas ça.
Non, mais Retailleau, faut qu'il relise la copie ou alors Wauquiez ment. Il n'y a pas d'impôt nouveau.
Si, il y a un nouvel impôt, notamment sur les familles. Sur le pacte Dutreil, Madame de Montchalin a rajouté
une surtaxe pour les entreprises.
Il y a une petite surtaxe sur pas les petites, les grandes entreprises, mais
sur
l'impôt sur le revenu, il y a pas d'augmentation. On est bien d'accord.
Sur l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas que ça.
Claude. Oui. Amélie de Montchalin a expliqué que ce budget 2026 va mettre fin à une exemption permettant d'échapper à l'impôt pour ceux qui rangent les biens personnels parmi les actifs d'une entreprise familiale, notamment grâce au pacte Dutreil.
C'est pas bien ça. C'est relativement logique, non?
Bah, je sais pas. Écoutez,
non, mais il y aura probablement, et c'est ce qui a été annoncé, je sais pas ce que ça donnera, mais il y a une véritable volonté de lutter de manière, espérons-le, plus efficace contre la fraude et les tentatives multiples et variées d'essayer d'épargner ces revenus.
Si on prend effectivement cet exemple, d'accord, mais ce budget est quand même, d'avis, c'est un budget qui est socialiste. On avait déjà énormément d'impôts, c'est-à-dire que le gouvernement ne s'est pas évertué à les baisser. Non. Et en fait, les demandes des LR l'ont quand même très très peu écouté, parce qu'en réalité, quand même, dans le vote de la censure demain, les LR, alors on verra ce qu'ils décident de faire, mais la dernière fois, quand il y a eu des censures sur la suspension de la réforme des retraites, le parti, si vous voulez, à l'intérieur, il y a environ 50 députés, ils sont 49 pour être exact, et même en dessous de ces 50 personnes, ils sont complètement divisés en trois, entre les abstentionnistes, les quelques dissidents qui effectivement votent les censures parce que veulent affirmer à quel point ils ne sont pas d'accord avec cette politique-là et qui sont en général des retaillistes très fidèles, et ensuite d'autres qui, pour le coup, là, tombent dans ce que Marine Le Pen adore appeler l'UMPS, mais qui effectivement, là, érige la stabilité en grande valeur. Donc là, c'est en fait tout ce que je veux dire, c'est que vraiment les LR aujourd'hui, non seulement sont illisibles, mais surtout leur voix ne porte plus du tout. En tout cas, c'est mon sentiment.
Alors, c'est ce qu'on verra au municipal.
On verra.
En attendant, je parlais de ce conseil de paix avec un ticket d'entrée à 1 milliard d'euros. Est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est une nouvelle façon de... Est-ce que c'est un nouvel ONU dirigé par Donald Trump? On verra à quoi ça ressemble. En tout cas, évidemment, entre M. Macron qui voudrait activer l'instrument de coercition de l'Union européenne, écoutez ce qu'on pense Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission. Il a réagi à ces pressions de Donald Trump sur le Groenland. C'était sur France Inter ce matin.
Le Groenland ne sera jamais américain. Il faut que le chantage cesse. Je pense que l'administration américaine fait une erreur importante, c'est de tester les Européens sur deux principes, l'autodétermination des peuples et la souveraineté territoriale des États membres de l'Union européenne. Évidemment, nous avons un certain nombre de faiblesses aujourd'hui, des dépendances, notamment économique. Nous avons un certain nombre de faiblesses qui fait que certains pays ont des craintes sur des répercussions économiques et notamment sur des répercussions économiques commerciales, puisque nous sommes soumis à des chantages de droits de douane dorénavant. Oui. Mais nous devons tenir et la pression doit maintenant s'exercer du côté européen.
Le commissaire européen Stéphane Séjourné ce matin sur France Inter. Qu'en pense Bernard-Henri Lévy qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure dans Punchline?
Que les Européens aient un réflexe de survie, de défense, peut-être. C'est d'ailleurs ce qu'on observe. Et tant mieux. Si c'est ça, ce sera en effet un réflexe de survie face à l'abîme, parce qu'on est au bord de l'abîme, là. L'économie européenne, l'économie américaine aussi. Parce que si les Européens répondent comme ils le devraient et comme l'annoncent certains, dont le président français, s'ils répondent sur le même ton, tarif contre tarif, vous allez voir, le plus grand marché, le marché le plus important pour les exportations américaines, c'est le marché européen.
Bon, on a beau dire aux États-Unis que c'est pas bien ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent.
Ils font à peu près ce qu'ils veulent et l'Europe.
Chocolat d'acier.
L'Europe me paraît, je dirais pas complètement nue, mais néanmoins dans une grande difficulté. au sens où la moitié, pour ne pas dire davantage, de pays européens ne connaissent que les États-Unis quand il s'agit d'acheter des armes, des fusils, des hélicoptères ou des avions. Comme un peu ennuyeux de vouloir faire la leçon à votre principal fournisseur. Idem de l'OTAN. Enfin, l'OTAN fonctionne d'une pure et d'une totale. Je sais bien qu'on est entré dans l'OTAN grâce à Sarkozy. Néanmoins, c'est quand même les Américains qui commandent. Donc j'ai peur que nous pesions insuffisamment pour dissuader. Je partage pas sa charge et sur le Groenland et pour dissuader monsieur Trump de faire ce qu'il a envie de faire. Il me surprend beaucoup, je dois reconnaître.
Quand vous dites qu'on pèse, quand on pèse pas assez, vous parlez de la France ou de l'Union européenne?
Alors la France était différente. D'abord parce qu'on a une bombe, on a la force nucléaire grâce au général de Gaulle. C'est une arme de non-emploi, mais ça peut tout de même servir. Et deuxièmement...
Donc personne ne veut que ça serve. Hein.
Non, bien sûr que non.
Une fois la puissance d'Hiroshima, personne ne veut qu'on l'utilise.
Non, et je pense que ça ne servira pas, et heureusement. Mais on n'a pas une armée à côté de celle-là, du nucléaire, on n'a pas une armée qui soit très nombreuse.
On
n'a
pas de forces conventionnelles qui sont suffisantes.
On est sur un modèle de... On a cru, si vous voulez, que la paix était éternelle et qu'on n'aura pas... on se retrouve maintenant à devoir combattre contre notre principal allié, fournisseur d'armes, et qui veut, et qui ambitionne, c'est surprenant, mais c'est comme ça, d'investir le Groenland. Mais on est dans une situation qui est très préoccupante.
Est-ce que vous avez entendu Madame von der Leyen dernièrement sur le Groenland?
Non.
Sur Donald Trump?
Non, à part se réjouir du Mercosur samedi dernier, elle est très
bien entendu, Madame von der Leyen. C'est pour ça que je vous pose la question si vous parliez de la France ou de l'Union européenne, parce que Madame von der Leyen, elle a fait top là avec Donald Trump sur les 15% de droits de douane pour calmer le jeu.
Ouais.
Elle sait que en tant que citoyenne allemande, les Allemands vendent beaucoup de voitures allemandes aux États-Unis. Ils ont même des usines là-bas, parce que les très très gros modèles allemands sont fabriqués là-bas.
Et ils dominent l'Europe.
Sont fabriqués là-bas, donc
tout le monde le sait.
Il y a des échanges, évidemment. Oui. Donc c'est pour ça.
La France est dans une situation. Oui, mais regardez, notre président souhaite absolument donner la plénitude de son action dans le domaine, notamment dans le domaine international, on a compris pourquoi. Là, il réanime ou réinvente l'accord de coercition.
Oui. C'est l'instrument.
On va voir combien de pays européens sont d'accord pour à nos côtés mène la bataille commerciale, parce qu'il s'agit encore une fois d'une bataille commerciale, c'est déjà pas mal. On va voir combien de pays sont prêts à marcher avec nous contre Trump.
Et on a vu sur le Mercosur déjà combien de pays sont
c'est
prêts
pas terrible,
à marcher
c'est pas
avec
terrible.
Nous.
Mais évidemment, le Mercosur est un autre sujet.
Mais c'est
évident.
C'est vrai que le Mercosur est un autre sujet.
Non, mais l'Europe va très mal, mais c'est une évidence.
Mais je voudrais rebondir effectivement sur ce que Jean-Claude dit. C'est très intéressant, effectivement, ce bazooka, cet instrument. Non seulement... Bon, alors moi, je pense qu'effectivement, en termes internationaux, la France aujourd'hui, c'est très compliqué de peser. Mais là, on va mesurer, en fait, si la France est capable de peser à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des pays qui vont nous suivre, qui vont être capables, effectivement, d'engager ce bras de fer? Parce que de ce que je comprends quand même, cet instrument pourrait mettre les États-Unis dans l'embarras à de nombreux... Quand même, en termes de services numériques en Europe, etc., ça pourrait vraiment embêter beaucoup les GAFAM américaines, etc. Donc ça va être très intéressant de voir si Emmanuel Macron sera suivi ou pas du tout. Et d'ailleurs, Davos va répondre, je pense, à la première question.
On parle de Madame von der Leyen. Est-ce qu'elle écoute Europe 1? Une dépêche AFP à l'instant.
C'est grâce à vous.
Qui est sourcée de Davos. Donc Madame von der Leyen est déjà sur les pistes du Parsen à Davos. Von der Leyen dit avoir averti une délégation du Congrès américain à Davos de la, ouvrez les guillemets, nécessité de respecter la souveraineté du Groenland. Fermez les guillemets. Merci.
Encore
Madame
un message
von der Leyen.
Bravo,
pour une fois, Davos va être, quand on n'est pas un chef d'entreprise, Davos va être très intéressant, puisque à la tête d'une immense et très importante délégation, le président Trump arrive donc mercredi à Davos. Il y aura les autres chefs d'État, notamment européens, On va voir ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont pas se battre dans les couloirs.
Oh non,
honnêtement,
ils vont pas se battre.
Non, mais à main nue, on laisse les fusils de côté. Non, honnêtement,
ils vont aller skier.
On est dans une situation, cher ami, on est
ça
dans
descend
une...
jusqu'à Cluster.
On est dans une situation où on va essayer de lutter contre des gens qui sont 10 fois plus puissants que nous, et nous sommes sans armes, sans réel moyen d'agir de manière efficace. Sauf peut-être les GAFAM. Vous savez ce que coûtent les GAFAM ? Vous et moi, nous tous, quand on utilise les GAFAM nombreux, qui sont proposés à notre souhait, c'est 150 milliards par an. Ça veut dire que ils vont éviter que alors, se priver de cette recette-là.
Bien sûr, je suis heureux de vous dire que c'est la fin de l'émission. Merci Jean-Claude Dacier, merci Hélène Rouet, la VTO.
C'est dommage.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Oui, mais il faut que Marlène nous explique en détail ce qui va se passer demain, surtout qu'on a de nouvelles pluies en Bretagne.
Oui, effectivement, on a une nouvelle perturbation qui va arriver d'abord dans le Finistère et progressivement, eh bien, elle va s'enfoncer jusqu'au niveau de l'Ille-et-Vilaine à peu près, le Haut-Pays Nantais aussi, avec du vent, des pointes à 90 km à l'heure. En revanche, dans le Sud-Est, c'est plus calme. Hein, l'épisode méditerranéen va se poursuivre encore un peu le matin avec des pluies régulières de l'Occitanie jusqu'au sud du Limousin. Puis ensuite, eh bien, elles vont régresser dans l'après-midi et elles ne concerneront plus que les Pyrénées-Orientales où il neigera à partir de 1200 mètres. L'est de la Corse aussi, pas mal de pluie. Donc notez simplement que l'Aude sortira de l'alerte orange dans une heure et qu'il faudra attendre 6 heures demain matin pour les Pyrénées-Orientales et les deux départements corse. Vous savez que cet épisode méditerranéen, qui est plutôt en flux d'est, c'est-à-dire qui se concentre sur le Roussillon et pas sur les Cévennes, il a un petit nom. Il s'appelle l'Aiguate. C'est du catalan, ça veut dire déluge.
Merci Marlène Duret, 20h59. N'oubliez pas, demain, même endroit, même heure pour Europe 1 soir. Je vous retrouve une heure avant pour